Un tango, une danse, un baiser.
Du bouda, bé, 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 bé. Par les temps qui courent.
Ça y est, tu es 21 ans.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
L'expression « mon défunt » n'est pas loin de l'expression « mon amour ». Vous l'utilisez dans ce texte deuil, Dominique Fourcade, écrit à la suite de la mort de votre éditeur Paul Otchakowski-Laurence, survenu le 2 janvier 2018. Ce chant de mort ne dissimule jamais qu'il est un chant d'amour. Il dit les variations du déchirement au sein des auteurs de la maison, que vous appelez les 256. Il dit aussi, comme il peut, la relation avec celui qui vous a offert des livres, signés pour une œuvre entière, et vous, quoi en échange. C'est un texte qui rappelle votre inquiétude, la menace permanente de la rupture avec l'écriture, et votre incroyable puissance à faire entrer l'immédiat et le présent dans votre langue. Bonsoir et merci beaucoup d'être là, Dominique Fourcade.
Bonsoir.
Ce texte deuil est publié aux éditions POL et notons aussi la parution de Improvisation et Arrangement, un recueil d'entretiens établi par Adrien France Lanor et Caroline Andriot-Saillant. Vous précisez à la fin de deuil des dates que sont du 3 janvier au 23 mars. Ce sont quelles dates ?
Les dates du 3 janvier au 23 mars sont la date où j'ai appris sa mort et la date, je pense, où j'ai terminé deuil. Quand j'ai appris sa mort, je me suis trouvé calciné en un millième de seconde et repoussé des années en arrière de ma vie avant même d'avoir recommencé d'écrire, ce qui est devenu le Ciel pas d'angle, mon premier livre chez POL. Je ne me suis pas retrouvé rajeuni, je me suis retrouvé repoussé, rejeté en arrière de moi-même, mais à l'âge que j'ai maintenant, c'est-à-dire celui d'un vieil homme, et totalement pétrifié, privé de tout moyen, et ne sachant comment réagir à la vie, au choc, n'étant totalement privé de tout moyen d'écrire, et me demandant comment il fallait réagir, et comment je pouvais réagir à l'intérieur du « il fallait réagir », et comment il faudrait faire, et convaincu qu'il fallait que je repense toutes les données de ma situation d'écrivain. Tout, mais incapable d'envisager comment. Et la dernière date, mars, que vous avez, c'est probablement la date où j'ai fini, où j'ai mis absolument la dernière main, je crois que c'est ça, au livre, à l'élégie. J'ai pendant le premier mois, le mois de janvier, j'ai pris des notes. Je crois que le soir même où j'ai commencé de prendre des notes sur mon choc, ne sachant que faire littéralement, j'ai pris un stylo, un crayon, un bout de papier, ce que j'avais, et j'ai pris quelques notes sur ce qui m'était arrivé dans la journée. Et puis le lendemain et tout le mois, j'ai continué de prendre des notes. Très vite, j'ai compris que je ne pouvais m'en sortir, c'est-à-dire en tout cas réagir à la hauteur de l'événement, qu'en écrivant une élégie à la mémoire de Paul. Et les notes, donc, ça a été durant tout le mois de janvier. L'écriture de l'élégie a été durant tout le mois de février. Puis j'ai profité de ce que chez POL, on était occupé à composer, à faire la composition du livre d'entretien. Ça m'a fait gagner encore un peu de temps. Et puis, à mesure que je l'ai donné, qu'on a commencé la composition avec Anthony Delbecq, qui était formidable d'ouverture d'esprit. Anthony, c'est la personne qui fait la composition des livres chez POL. Et j'ai profité, j'ai rajouté jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire avant qu'on l'envoie, j'ai encore rajouté, remodifié des choses. Donc c'est ça les dates. Voilà, c'est à ça que j'ai rempli mon temps. Et comme ça que j'ai fait face à mon désastre. Et ça a donné deuil, voilà. Je savais que je me suis affranchi de rien. J'ai résolu aucune des pointes de la dévastation. J'ai rien effacé, mais j'ai simplement fait quelque chose et me suis employé à fond. J'ai petit à petit retrouvé une sorte de dextérité d'écrivain qui m'avait complètement quitté la première semaine. J'ai remis mes robots en marche. Vous savez, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui... C'est pas nous qui le faisons pour nous-mêmes, c'est quelqu'un, une force supérieure à nous, qui appuie sur un bouton et les robots sont là et se remettent à bouger de la façon la plus maladroite la possible et la plus inopérante possible, et puis ils reprennent un semblant d'allure. Et il y a des robots qui sont spécialisés dans le déminage, il y en a d'autres qui sont spécialisés dans le fait de poser des mines, et on a besoin des deux. Il y a des robots spécialisés dans le fait d'attirer l'attention sur un point pour mieux la détourner. C'est d'autres robots le font, détourner l'attention dans le texte sur d'autres et faire qu'on trouve l'objet poème. Tout ça, croyez-moi, ça se remet pas en route facilement. Ça se remet pas en route déjà quand les circonstances sont, disons, normales d'un texte à l'autre, d'un livre à l'autre. Mais après ce cataclysme, moi j'ai cru que je pourrais jamais les remettre en route. Et c'était ça ou mourir. Ou mourir en tant qu'être au monde, en tout cas. Et mourir dans ma relation avec cet homme fabuleux qui a été Paulo Tchaïkovski-Laurence, dont deux, évidemment, ne dit qu'une partie, et c'est pas le sujet d'en parler aujourd'hui. Après commencer un travail essentiellement qui a consisté à laisser venir les choses et à enregistrer. À laisser venir ce qui se passait quotidiennement. Je n'ai rien inventé pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'ai pas d'imagination. Je n'en ai jamais eu. Donc, je n'écris que ce qui arrive. Et je fais en sorte que tout arrive en même temps. Parce que tout arrive en même temps, il faut, dans la réalité, il n'y a pas un tri chronologique. Et il faut faire, rendre cet en même temps de son mieux dans l'écriture. Ça n'a pas été facile. Il a fallu faire aussi un travail de composition des différentes données au fur et à mesure qu'elle entrait. Une qui entrait à un moment donné n'avait pas sa place là dans le texte. Il a fallu la repousser en arrière ou la repousser en avant, puis la rechanger encore. Il a fallu aménager les blancs entre les différents blocs. Il a fallu travailler le mélange qui est très important pour moi, l'a toujours été, mais là, les plus que jamais, le mélange entre les vers et la prose, qui sont tous les deux partis à égale action, à égale capacité d'action, partie du poème, partie constituante du poème, et parfois très très mêlée. Donc tout ça c'est mis en branle, mais au départ, à partir littéralement de rien, j'ai été repoussé à un degré zéro de moi-même que je ne me rappelais même plus.
Degré zéro de vous-même que vous rapprochez de Le ciel pas d'angle, votre premier livre chez Paulo Tchaïkovski-Laurence, ça veut dire que c'est avant ça?
Oui, je le rapproche, c'était antérieur à ça, un degré zéro, où je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie, mais à l'époque j'étais jeune, tandis que je me suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, repoussé à ce degré zéro, mais vieux. Et c'est encore plus désorientant, et c'était au fond une expérience dure, disons dure. Voilà.
Ça signifie que votre rencontre avec Paulo Tchaïkovski-Laurence et ce premier livre publié dans sa maison vous a permis de savoir un peu mieux ce que vous vouliez faire dans la vie?
Pas un peu mieux de ce que je voulais faire, ça je le savais, mais un peu mieux comment le faire. Oui, voulais faire, bien je déteste le mot vouloir, mais on ne peut pas l'éliminer complètement. Un peu mieux... Je sais pas ce que je voulais faire, au fond, j'ai jamais voulu être écrivain. Je n'ai jamais pu faire autrement que d'être dans l'état de n'exister que dans l'écriture et d'avoir un sentiment du monde que par le mode de l'écrit, qui a toujours eu pour moi, mais je le savais pas au début, mais je l'ai assez vite pris conscience, l'écriture a une fonction cognitive très puissante. Et aussi une fonction amoureuse très puissante. Ça veut dire que elle seule me permet de connaître le monde au maximum de mes capacités de connaissance, et elle seule me permet d'aimer le monde au maximum de mes capacités d'amour. Mais ça, c'est une chose qui n'est jamais acquise pour toujours, La rencontre avec Paul, puisque vous m'avez interrogé là-dessus, excusez si je ne réponds pas directement aux questions que vous me posez, mais tant de choses viennent en même temps que ce n'est pas si facile. La rencontre avec Paul n'a pas fait de moi un écrivain. La rencontre avec Paul a aménagé un cadre où je savais qu'allait être épaulé et soutenu le développement même de mon travail d'écrivain. Ça, c'est capital. C'est capital et c'est sans égal au monde. C'est une chance qu'on n'est jamais sûr de mériter et qu'il faut mériter à nouveau chaque jour, à chaque ligne qu'on écrit. Ça a été la rencontre avec Paul. Voilà. La rencontre avec quelqu'un qui respirait la littérature comme personne que j'ai jamais rencontré, que j'ai pu rencontrer avant dans le monde de l'édition et personne depuis. Et c'est évidemment une chance fabuleuse parce que on sait qu'on peut aller à l'extrême de soi-même sans avoir à reprouver quoi que ce soit, à reconvaincre quiconque du bien fondé de publier ce que l'on a fait et que l'impatience qu'il éprouvait vis-à-vis des textes qu'on lui apportait et l'impatience du prochain alors qu'on venait d'en finir un conduisait à une précipitation d'énergie dont sa mort évidemment, on marque la fin, disons. C'est une des choses dont sa mort marque la fin.
Si vous voulez bien, on va écouter le début de ce texte d'Œil, lu par Romain de Bec de Lièvre.
Je rentre de la Nièvre. Je viens de passer la porte d'Orléans. Me trouve avenue du Général Leclerc. Il est un peu moins de 4 heures de l'après-midi, ce mercredi 3 janvier. Mon portable sonne. Comme il est posé sur le fauteuil du passager, il m'est facile de voir s'afficher sur l'iPhone le nom de Jean-Paul Hirsch. Alors que je ne réponds jamais quand je suis au volant, je sens que je ne peux pas ne pas prendre cet appel. Paul est mort. Précédé de la phrase « Dominique, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer ». Dans l'instant s'échappe de moi un grand flux vital, comme un départ de mail géant, un mail de fer, dont le sillage laisse une douleur immense. Ce flux n'est pas revenu, ne reviendra jamais. Lead U. J'ai juste la force de dire à Hirsch que je le rejoins à la maison d'édition. Incapable de conduire, je me gare dans la voie des bus. Encombrement, klaxon, sans nom, sanglot. Je hurle de désarroi. Une patrouille de police, constatant mon état, veut me faire descendre de voiture. Je me reprends, explique la situation. Ils veulent bien me laisser poursuivre. Je me gare dans une rue latérale. Je connais le quartier. J'achète des pommes place Jacques Demy au marché du vendredi. Et je fréquente chez Desnoyers. Je veux faire vite, mais je suis d'une grande maladresse. Tout m'est hostile et étranger. Je heurte la mallette arrière d'une moto. J'écrase un pigeon. Entre la phrase « J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer » et « Paul est mort », il ne s'est pas passé un millième de seconde que j'ai vécu comme une éternité. Tentant de la mettre à profit pour écarter qu'il puisse s'agir de Paul et lui substituer n'importe qui, n'importe quoi pouvant faire l'objet de la catastrophe qui va s'abattre, tout sauf lui. Mais cette manœuvre, cet espoir fou et indécent, a été vite déjouée. Je dois me rendre à l'évidence, c'est bien un tir à balles réelles, avec nom réel.
Dominique de Fourcade, Romain de Bec de Lièvre, lit donc le début de Deuil, ce texte écrit suite à la mort de Paul Otchakovsky-Laurence le 2 janvier 2018, et dont on vient de dire que vous l'avez écrit jusqu'à la fin du mois de mars, l'entrée dans ce texte m'a fait me dire que la mort nous harponne toujours dans le réel et dans ce que le réel a de quotidien, de peut-être banal, d'action mise bout à bout. Et je trouve que vous rendez avec cette surprise dans le trajet d'automobile, les choses pratiques qu'on doit faire à ce moment-là, prendre un taxi, peut-être se nourrir, décider d'une direction, vous rendez cette manière d'être harponné. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Oui, bien sûr, vous faites bien comprendre. C'est simplement que moi, j'ai toujours fait ça. Ma poésie repose sur un ancrage direct et une retranscription directe du réel qui survient. Là, c'était spécialement dur et spécialement violent. mais c'était pas nouveau comme façon de procéder pour moi. Simplement, il a fallu me remettre en état de performance d'écriture, et ne rien manquer de, ou essayer de restituer plutôt de la palpitation du moment. J'ai simplement mis en forme ce qui est arrivé, mais je pense que la mort est pas plus l'occasion de le faire que la vie, ou que l'état qui n'est ni mort ni vie. Je pense simplement que c'est comme ça que je travaille. Mais là, je me suis dit, c'est ça ou rien. Et quand j'ai commencé, je ne savais pas où j'allais du tout. Sinon que je me suis tenu, pour avoir une sorte de contact, je me suis tenu à ce qui arrivait.
Mais vous dites que ce qui arrivait, c'était la mort. C'est comme si en commençant ce texte, je me refaisais à l'évidence que la mort arrive comme les autres choses.
Oui. Oui, ça c'est...
C'est ça qui m'a paru vraiment très puissant dans le texte Deuil.
Mais la mort arrive comme les autres choses, ça c'est très clair, mais elle arrive comme les autres choses, mais elle n'a pas les mêmes conséquences que les autres choses. Donc, il fallait que je tente de traduire, comme vous l'avez très bien dit, son arrivée comme les autres choses, et son étendue explosive et dévastante qui n'est pas comme les autres choses. Et elle vous fait entre autres découvrir l'amour, mais avec une dimension désespérée que l'amour n'a pas toujours. Même si il y a toujours un peu de désespoir dans l'amour. Mais là, il n'y avait plus que du désespoir, il n'y avait plus que du non-retour, il n'y avait plus que des cris de la souffrance. Le tout, c'était de ne pas les effacer, de ne pas les annuler, ces cris, cette souffrance. Et en même temps, il n'y a pas que des cris et de la souffrance dans le reste de la vie, parce qu'il y a le sourire d'un chauffeur de taxi, il y a la bonté des êtres humains, il y a la puissance de la présence féminine aux éditions POL. Il y a plein de choses. Le soutien qu'on reçoit de ses proches, la grande poésie, il y a Rilke et Emily Dickinson. Il y a aussi la certitude qu'il faut s'établir au maximum de lyrisme. Je pense que il y a une donnée constante de mon travail qui est une donnée lyrique, depuis le ciel pas d'angle, et que là j'ai compris d'instinct que ça aussi, il fallait le retrouver. La grande veine lyrique, il fallait qu'elle parcourt le texte, l'élégie, et que là, elle allait me sauver de, elle allait être l'impulsion qui allait faire battre le cœur de ce texte. Moi j'aime la poésie lyrique. Je ne sais pas si le mien de lyrisme a quelque valeur que ce soit, mais je sais que c'est la constante et que ça, il fallait que en même temps, avec le plus de sobriété possible, je maintienne la pulsation de ce lyrisme tout au long.
L'élégie ne s'écrit pas seule. Vous écrivez « Je ne suis pas seule pour écrire cette élégie ». Et on entend bien, lorsque vous disiez tout à l'heure, Dominique Fourcade, que avec cette exigence de faire exister ce qui arrive et ce qui arrive en même temps, en effet, vous ne vous trouvez pas seule. Mais vous augmentez aussi les présences en faisant appel à deux personnes pour leur demander un poème chacun, en leur demandant un poème de Rilke et en leur demandant un poème de Dickinson. Pourquoi est-ce qu'il vous est apparu qu'il fallait qu'il y ait dans votre poème Deuil la présence de conseils d'autres poèmes
et de conseils d'autres gens qui sont dans la poésie au moins autant que moi, chacun à leur façon?
En l'occurrence, Susan Howe et
Adrien Fonslaner. Bon, alors, de cas différents, bien sûr, mais on se retrouve quand même par l'aspiration commune et par la respiration commune. Susan Howe est ma grande compagne en poésie. Elle a un an près mon âge. Elle est, je pense, le plus grand poète américain de sa génération. Son travail est la sœur du mien, si je puis dire, tout en étant totalement différent. Depuis des années et des années et des années, nous sommes très très proches et échangeons beaucoup. Et elle a écrit ce livre prodigieux qui a renouvelé le champ de l'approche d'Emily Dickinson, qui s'appelle « My Emily Dickinson ». Et j'avais envie qu'elle choisisse un poème de Dickinson. J'avais envie pour qu'elle soit là, pour qu'elle soit avec moi dans la mort. J'en avais besoin et j'en avais envie et ça me semblait approprié. Et je lui ai demandé, elle a commencé par refuser, parce qu'elle n'était pas près de sa bibliothèque, alors qu'elle connaît Emily Dickinson par cœur. Et puis, deux heures plus tard, elle m'a envoyé un autre mail en disant, allez, je le fais. Et j'ai demandé aussi l'autorisation de reproduire les commentaires, que je trouvais fabuleux à son choix. Et le poème est d'une beauté, évidemment, incroyable, parce qu'il est un des plus ambigus. Il traite de la mort, mais aussi de tout à fait autre chose que la mort. Et là, je savais que j'étais dans le mille, j'étais au cœur de la cible qui se constituait au fur et à mesure que le texte avançait. Je savais que c'était le plus juste, la plus juste chose, et que ça allait donner une puissance intérieure au texte lui-même, au poème général qui était en route, bien au-delà des méditations, si je puis dire, et que ça me faisait très plaisir. Même chose pour Rilke. Je pense que Rilke est un des grands penseurs de la mort dans le monde moderne, avec Heidegger en philosophie et avec Cézanne en peinture. Je voulais absolument, ça tombait pour moi, ça allait de soi. Je voulais qu'il y ait un poème de Rilke et j'ai demandé à Adrien Fonslaner pour deux raisons. L'un parce qu'il connaît Rilke mieux que personne et l'autre pour le remercier d'avoir établi l'édition de Improvisation et Arrangement. J'aimais beaucoup qu'il y ait aussi sa présence là. Il a choisi et commenté sans savoir qu'il était la symétrique de Susan Howe et d'Emily Dickinson. Et lui philosophe, est remarquable, et donc ça me plaisait beaucoup, et j'ai fait ça à l'insu. Lui ne savait pas ce que je faisais, il a su qu'après, avec Susan Howe Dickinson, et Susan et Amy, il ne savait pas non plus que je faisais quelque chose de l'autre côté, et je pense que ça a bien marché. Il a simplement fallu trouver la juste place, mais qui n'a pas été pour l'un et l'autre, mais ça n'a pas été si difficile que ça, parce que il y a eu un moment qui était un moment heureux, un moment heureux d'écriture, où les choses trouvaient leur place presque d'elles-mêmes. Et là, c'était bien. Et simplement, moi j'étais seul à éprouver que c'était bien. Je me demandais quel accueil les autres allaient faire. Mais au moment où on travaille, et quand les choses trouvent leur place, c'est un des moments de bonheur possible de l'écriture, quand les blocs trouvent leur place. Parce que dans tout écrit, il y a une composition, une part de composition. Où est-ce qu'on met telle masse? Est-ce qu'on la déplace? Comment? Et est-ce qu'il faut qu'elle soit accompagnée d'une chose, d'une masse équivalente? Ou beaucoup plus petite et moins importante pour faire l'équilibre à l'intérieur d'un déséquilibre? Comment ça s'agence? Et il y a eu un moment où ça marchait bien.
Et c'était soutenu ou c'était en lien avec les poèmes de Dickinson?
Oui, absolument. Et j'avais presque honte d'être un écrivain heureux dans ce moment de deuil. Mais j'ai été aussi ça. Mais c'est, vous savez, je pense à Monet peignant et dessinant les traits de sa femme sur son lit de mort, etc. Il y a quelque chose de scandaleux dans le fait que l'écriture opère même dans les circonstances les plus désastreuses et peut rendre l'écrivain heureux de son mode opératoire.
Lorsque vous demandez ces deux poèmes à ces deux amis, est-ce que vous demandez un poème pour vous? Est-ce que vous demandez un poème pour le texte? Ou est-ce que vous demandez un poème pour Paolo Tchaïkovski-Laurence?
Non, je ne demande pas un poème pour moi. Et je ne demande pas, c'est une des rares questions que vous posez à laquelle il est facile de répondre. Et je ne demande pas non plus un poème pour Paul. Je n'ai pas écrit ce texte pour Paul. Je le demande pour le texte.
Pour le texte.
Oui, je demande pour la chorégraphie du texte, pour le mouvement et les échanges et les déplacements intérieurs au texte et les échos internes au texte. Je le demande pour faire fonctionner et construire, pour la construction et le tissage du texte.
Et votre intuition est récompensée parce que ils agissent comme deux machines, comme les robots dont vous parliez.
Oui, oui.
Qui mettent en œuvre un ordre possible ou une harmonie possible.
Oui, mais ça, c'est vous qui le dites que mon intuition est récompensée. Moi, je ne veux pas me permettre d'approuver. Je suis très heureux pour le cas où vous ne vous tromperiez pas en disant ça, mais moi, je ne peux que dire j'ai fait ça. Je ne peux pas dire ça marche. C'est à vous, c'est au lecteur de le dire, disons.
On va entendre la voix de Paul Tchaïkovski-Laurence dans un entretien à voix nue mené par Virginie Bloch-Lainé en 2014.
Je suis très sensible à quelque chose qui est de l'ordre de la vérité dans les textes. Non pas parce que ce qui est dit a existé ou est vrai au sens le plus immédiat du terme, mais parce que la manière dont c'est dit est vraie et juste. Et c'est cette justesse que j'essaie de trouver dans les textes, et c'est ce qui m'agite quand je lis un texte. Ça, c'est juste ou c'est pas juste, ça dit la vérité ou ça ne la dit pas. Bon, je veux dire par là, c'est une vérité formelle, mais qui renvoie évidemment à une autre forme de vérité plus profonde, vérité de la personne qui, écrivant un texte, ne sort pas de ce sillon qui est celui qui va le plus profondément dans son histoire, dans sa sensibilité, dans sa... Voilà. Et j'ai l'impression de le sentir quand je lis un texte qui me plaît. Bon, ben je suis comme vous, comme tout le monde, fait d'une histoire très très complexe, qui a à voir avec l'enfance, avec les rencontres, avec certaines formes d'hérédité intellectuelle, etc. Et quand un texte fait bouger tout ça, a des répercussions sur cette espèce d'ensemble, sur ce magma que j'ai du mal à analyser ou à décrire, mais qu'on a tous en nous, plus ou moins. Quand quelque chose se passe à cause du texte, et ben là, je commence à m'y intéresser beaucoup. Voilà.
C'est donc la voix de Paul Tchaïkovski-Laurence en 2014. Dominique Fourcade, vous le disiez, ce livre Deuil n'est pas là pour parler de la relation que vous avez eue avec Paul Tchaïkovski-Laurence, mais il y a quelque chose de ce texte qui parle de lui. Et notamment, vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte qui parlent du non-retour, de tout ce qui est fini, de tout ce qui ne sera plus. Mais il me semble avoir lu et entendu que vous y écriviez aussi des choses qui perdurent de lui. Et à l'entendre parler de la manière dont il cherchait la vérité dans les textes, je me demande si sa recherche, si le flux vital de sa recherche n'est pas invité à perdurer dans votre texte.
Mais d'abord, première chose, c'est pas rien pour moi, dans ce studio, d'entendre la voix de Paul.
J'imagine.
C'est très secouant. On ne sait pas comment on peut résister à ça, et ça le remet tellement présent. Il était présent de mille façons, mais notamment présent par sa voix. Et quand on était devant lui, et qu'on échangeait avec lui, sa voix avait son registre et son monde à elle en tant que voix. C'était une voix monde. Et ses intonations, ses pauses, ses hésitations, son amour des choses, son effacement derrière l'écrit, mais en même temps avec une présence qu'encore une fois j'ai connue à très peu d'autres êtres, et surtout pas à d'autres éditeurs, est rendu là, dans l'extrait que vous venez de donner. Et en même temps, il y a cette chaleur et qu'on n'aura plus, et c'est un déchirement de l'entendre. C'est vraiment un déchirement. J'ai évité ça au maximum depuis sa mort. Mais j'ai bien sûr que j'ai eu des occasions, même par surprise, à la radio, en voiture, j'allume France Culture, c'est Paul, il a été tellement présent depuis sa mort, et évidemment, les sanglots affluent, là, et sans honte, et le regret. Bon, alors, pour revenir à votre question, est-ce que vous pourriez la reformuler juste, si vous avez, excusez-moi, c'est l'émotion. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
J'ai bien entendu que vous disiez tout à l'heure que ce texte était là pour prendre acte de ce qui ne sera plus de POL.
Oui.
Mais il me semble que ce texte invite aussi des choses de POL à perdurer. Notamment, par exemple, il y a un moment dans ce texte où vous dites que ce que vous étiez, vous, les 256 auteurs, avant sa mort, vous ne le serez plus. Ce que lui était, continuera d'être. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que deuil est une invitation à ce que certaines choses de POL continuent de vivre, perdurent?
Je ne crois pas que ce soit une invitation à ce qu'elle continue, c'est un constat qu'elle continue. C'est une évocation d'un monde. Une des choses que j'ai comprises très tôt en commençant ce texte, c'était que ça ne pouvait pas être une histoire Paul et moi Dominique Fourcade, Paul Tchaïkovski et moi, moi et Paul. Ça ne pouvait pas être ça, il ne fallait pas que ce soit ça, et de toute façon ça ne pouvait pas l'être, ça n'avait pas de consistance. Ce qui a de consistance, c'est de transformer ou de rendre, ou de transformer ce texte en l'évocation d'un monde bien plus large que lui et moi, bien plus beau, parce qu'il était ça, il était l'acteur, le donneur d'énergie, le catalyseur, le calmeur aussi, de tout un monde, de tout un monde. Et je comprends maintenant d'ailleurs aussi tout un monde même plus vaste que le monde de sa maison d'édition. Mais bon, tenons-nous-en là à sa maison d'édition. Je voulais que les autres soient présents et j'ai constaté que ce restait fabuleusement ce qu'il avait fait et qui était indépendant, une fois lui mort, indépendant de nous, tandis que nous étions totalement démunis. Lui, bien que décédé, n'était coupé de rien, était encore au cœur de son monde, tandis que nous, vivants, étions amputés de lui d'une façon absolument fatale, et je suis absolument persuadé que aucun d'entre nous ne continuera inchangé comme si c'était rien passé. En tout cas, les meilleurs d'entre nous ne continueront pas de façon inchangée. J'en suis convaincu. C'est très clair. C'est très très clair. Nous ne sommes plus les mêmes. Et lui demeure le même.
Je le disais en introduction, c'est un texte qui est inquiet de l'écriture, qui dit la menace de rompre avec l'écriture. Alors c'est pas la première fois que vous écrivez, Dominique Fourcade, l'inquiétude d'avec l'écriture, mais est-ce que vous avez vraiment senti que Paul Tchaïkovski-Laurence décédé, il était possible de complètement arrêter d'écrire?
Mais d'abord, d'abord j'ai senti que il était possible que moi j'arrête tout. Deuxièmement, il était possible aussi d'arrêter d'écrire, mais il y a deux choses distinctes là que je voudrais dire. L'une est que j'ai surtout pensé arrêter de faire des livres, ce qui est distinct d'arrêter d'écrire. Et que j'essaie de résumer pour vous ce qui s'est déroulé en plusieurs jours, et que je me suis dit que j'ai perdu le goût d'un livre, de faire un livre à nouveau encore. Mais j'ai pas perdu, j'ai petit à petit retrouvé le goût de l'écriture. Je sais pas si j'ai expliqué, si je l'ai déjà fait, vous m'arrêtez, Marie. C'est quand Paul est mort, j'étais dans une situation difficile parce que il avait établi un programme de publication avant sa mort, plusieurs mois avant. Les programmes de publication des maisons d'édition, comme vous le savez, ça s'établit des mois avant et parfois un an ou deux avant, et était établi de longue date le fait que je devais publier au mois de mai deux livres. Un était la réunion des entretiens, le choix des entretiens fait par Adrien France Lanor et Caroline Andriot-Saillant, improvisation et arrangement d'un côté, et de l'autre, un livre qui devait s'appeler et qui s'appellera peut-être, je ne sais pas, Magdaléniennement, qui porte sur le rapport entre le moderne et l'art de la préhistoire, pour aller vite, sur lequel je travaille depuis des années. Et il me restait l'essai final à terminer, et j'avais janvier et février pour le terminer. Sa mort, la mort de Paul, a rendu ça, je l'ai su tout de suite, mais je ne l'ai pas dit tout de suite.
Impossible.
Impossible. C'est-à-dire impossible de terminer ce livre et impossible de le terminer. deuxièmement impossible de le publier comme s'il n'était pas mort. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas le faire, simplement. On m'aurait mis un pistolet. J'aurais préféré qu'on me tue. Je ne pouvais pas le faire. Pendant ce temps-là, nous décidons, nous, c'est Jean-Paul Hirsch, Frédéric Boyer et moi, de maintenir la politique éditoriale définie par Paul jusqu'à fin juin. Il avait tout défini et de faire absolument ce qu'il avait déterminé. Détermination et décision dans lesquelles il y avait mes deux livres. Je sais, moi, et j'ose pas encore le dire aux autres, qu'il n'y aura pas mes deux livres. Qu'il y aura improvisation et arrangement parce que c'est pas un livre que j'ai écrit. Pour l'occasion, c'est une réunion de choses anciennes. Et je sais aussi que je commence une élégie et je le dis pas. Et pendant quelques jours, on a tous travaillé ensemble, tous les trois, que j'ai dit à la tête de POL après la mort, et j'ai pas dit. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, parce qu'une chose est d'avoir décidé cette élégie, une autre chose est de le dire, presque de l'avouer. Et autour de moi, on était un peu décontenancés. Et moi, j'avais peur, très peur. Très peur, non pas de la réaction des autres, mais très peur de pas être capable d'écrire ce dans quoi la vie ou l'absence de vie ou le côtoiement avec la mort m'avait lancé, c'est-à-dire dans lesquels j'avais très peur de pas être capable de mener ça à bout, à son terme. Et je lisais dans le regard des autres qu'ils étaient décontenancés par le changement du programme. Comment? Mais on change de programme et puis aussi par le fait que je changeais pour proposer ça. Et qu'ils avaient aussi peur pour moi. Ça a ajouté au risque et à l'angoisse. Il me semble que on est plus ou moins resté dans cet état de peur, en tout cas, jusqu'à ce que je donne le texte. Où ils ont pu le lire et moi je sais que je l'avais fait. Je sais qu'au moins c'était fait. Et donc ma peur a cessé. La peur de ne pas pouvoir l'écrire, mais lui a succédé. La peur de savoir, la gêne et la peur de choquer, et la peur de savoir quel écho d'œil allait avoir à l'intérieur de la maison d'édition d'abord, et puis une fois publié chez les premiers lecteurs. Et c'est une peur terrible, je n'ai jamais senti aussi exposé. Puis, mais à l'intérieur de la maison d'édition, tout de suite, le soutien a été formidable. Mais ça s'est pas mis en place tout seul, c'est parce que aussi presque ça a transgressé ce qui avait été convenu. J'ai pas convenu évidemment ça avec Paul. Comment aurais-je pu? J'essaye de reconstituer pour vous une partie des écueils intérieurs et on se heurte à chaque fois de toute façon. On se fait beaucoup de mal et on ne sait pas comment on va vraiment en sortir. Et encore une fois, c'est une histoire très mouvementée, mais ça suffit. Bon, maintenant le texte est là, quoi.
Et c'est un texte où vous écrivez que vous êtes traversé par le sentiment que peut-être c'est à cause de vous, que ce qui arrive est à cause de vous.
Oui, la nuit dans les cauchemars et même le jour dans les cauchemars. Oui, on se dit, mais comment? Enfin, quelqu'un qu'on aime tant que ça, on doit le protéger aussi. C'est un côté évidemment enfantin, mais aussi adulte. La protection d'autrui est une partie du grand rôle humain. La protection de ce qu'on aime, ça fait partie de l'être au monde. Et on ne peut pas ne pas s'accuser quand un proche meurt. Comme ça, on aurait dû prendre le volant à sa place, on aurait dû lui dire de ne pas aller là, on aurait dû, je ne sais pas ce faire, ou le distraire, ou lui trouver un autre. L'aiguiller autrement, et en même temps, c'est impossible et impensable, parce que la vie s'empare de vous et fait fi de toutes les protections que les autres pourraient tenter de dresser autour de vous. Le mélange indissociable de la vie et de la mort, fait fi de tout ça, est beaucoup plus puissant que tout amour. Et ça est, Ça, c'est très, 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 très dur. Ça n'enlève pas le sentiment de culpabilité qu'on a quand il arrive quelque chose de fatal à quelqu'un qui vous est proche.
Et ce qui est assez étonnant, c'est que, enfin, étonnant n'est pas le bon mot, mais ce fameux cauchemar diurne, nocturne, où la culpabilité et la responsabilité de la mort d'autrui revient, fait que ce qui arrive dans votre texte, entre autres, sont des souvenirs de la guerre d'Algérie, vous, jeune homme, dans la première embuscade et dans le choc d'autres morts. Je ne sais pas si je vous ai lu aussi frontalement parler de cet épisode-là dans aucun livre.
Non, vous ne pouvez pas m'avoir lu parler de cet épisode-là parce que je crois que j'en ai parlé nulle part. Et j'en ai parlé à personne sauf à quelqu'un qui m'a longuement interrogé sur justement mon séjour en Algérie. Mais tout s'est passé dans l'écriture de ce texte comme si tout ce qui avait trait à la mort dans ma vie refaisait surface et venait réclamer sa place, réclamer d'être dit, et dans la lumière d'une responsabilité générale qui est la mienne. Je crois à la responsabilité. Je crois que chacun est responsable d'immensément de choses, y compris de la mort des autres, et presque on peut légitimement s'accuser dans un état de poésie générale dans laquelle on ne peut pas ne pas se placer si on écrit. On peut s'accuser d'être responsable de tout ce qui arrive, y compris de la mort, et s'accuser d'avoir presque fait venir la mort pour la goûter, pour en avoir un goût, pour pouvoir la vivre. C'est à la fois faux, ce que je viens de dire, et en même temps vrai. Je crois que c'est vrai. Que ça, pour arriver à l'éprouver, il faut se mettre en état de grande poésie. Pour se mettre en état de grande poésie, il faut se mettre en état d'écriture, c'est-à-dire d'ouverture à ce qu'il peut y avoir de plus dur. Le travail d'écriture, c'est un travail majeur d'ouverture. Dans mon cas, il n'y a pas de travail plus fort d'ouverture que ce travail-là. Et immanquablement, entre par tous les pores des tissus, de tout, entre la mort et les circonstances où on l'a côtoyé. Et elle entre sous un jour participatif insupportable et absolument juste. On en fait partie. On en est l'acteur, même si on n'y est pour rien. Et on y est pour quelque chose, même si on n'en est pas l'acteur. Enfin, elle ne fait qu'un avec nous. Et l'écriture de deuil a rendu ça, a actualisé ça de façon plus forte que ce que j'avais jamais pu l'éprouver auparavant dans mon travail d'écrivain et dans ma vie tout court. Et en même temps, moi j'ai une grande pudeur à parler de ces choses-là, et notamment de la guerre d'Algérie, et notamment des expériences de ce moment-là de ma jeunesse. Et là, j'ai été presque ébloui que ça fasse surface. C'est venu dans un éblouissement. Je me suis dit non. Puis tout de suite on dit non, mais dans la millième seconde, on dit mais oui. Et allons-y. Et quelle chance que ça soit possible d'écrire quelques lignes, de mettre en ligne ça.
Thank you. Ce qui est important, c'est ce qui s'improvise. Ni la qualité de la parole, ni la qualité du son ne sont secondaires. Il y avait un grand homme du journalisme pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, Jean Marin, qui faisait près de 2 mètres, qui était président de l'AFP, qui venait de temps en temps à Culture Matin. Il était tellement respecté des journalistes qu'il pouvait organiser à l'AFP, dont il était le président, des réunions dans le grand hall, et il parlait depuis un haut-parleur. C'était une grande voix de Radio Londres. Ici Jean Marin. Et un jour, il m'a dit ceci qui me paraît définir parfaitement notre vie à la radio. Lebrun, c'est préparé, donc on peut improviser. Ce qui est à éviter absolument, c'est la radio écrite de A à Z. Parce que dans ce cas-là, vous faites ce que faisait Henri de Monterland. Vous écrivez les questions, c'était lui qui les écrivait. Vous écrivez les réponses, c'est lui qui les formulait. Et on est en train d'ailleurs de revenir insensiblement, c'est étrange, à la radio écrite.
C'est la voix de Jean Lebrun au micro d'Adèle Van Rett il y a quelques semaines dans les chemins de la philosophie, Dominique Fourcade. Peut-être pour finir l'émission en évoquant le deuxième livre qui paraît, celui qui était prévu avec Paul Ojakowski-Laurence, qui était désiré avec lui ou par lui, et qui s'appelle Improvisation et arrangement. C'est une sélection, un recueil de quelques entretiens. On entend ici Jean Lebrun parler de la nécessité de l'improvisation à la radio, pour les entretiens. Comment ce mot d'improvisation s'est imposé pour le titre de ce recueil, Dominique Fourcade ?
Il est vraiment venu tout seul. Il est venu d'autant plus que ce livre, dont l'édition a été établie encore une fois par Adrien France-Lanor et Caroline Andriot-Saillant, recueille, réunit un choix des entretiens oraux et des entretiens écrits. Quand on vous interroge et qu'on répond à voix haute, on improvise les réponses, comme nous venons de le faire, comme je viens de tenter de le faire avec vous. Et quand, au contraire, ce sont des revues ou des questions qu'on vous pose par écrit, on répond par écrit, mais qu'on le veuille ou non, on réarrange sa vie, son approche des choses, etc. Donc je voyais bien que, puisque le livre est fait des deux, des entretiens oraux et des entretiens écrits, il y avait des réponses improvisées et des réponses arrangées. Même si elles sont souhaitées, tout fait pour ne pas l'être, elles le sont quand même. C'est les réponses écrites. Et donc, ces deux mots sont venus parce qu'ils reflètent la stricte réalité de la nature de ce qui est réuni dans ce livre. Et j'aimais bien parce que les deux peuvent avoir une connotation musicale et que je pense que, sans aucune prétention, et que c'est pas un jugement de qualité, mais je pense que j'écris des sons, et que l'idéal, c'est la musique, art auquel je ne saurais prétendre, et qui pour moi est supérieur à tous les autres arts, mais que mon travail, c'est d'écrire des sons. Encore une fois, avec le peu de moyens que j'ai, et les contraintes que la langue qui est toujours, à un moment ou un autre, une contrainte de sens, une contrainte de référence du réel, ce que les musiciens n'ont pas. Improvisation, arrangement, même dans les entretiens, on me pose des questions, la personne qui me pose des questions émet des sons, et moi je réponds avec des sons. Je pense que les sons de la voix humaine, parler, qui parle, peuvent faire, doivent faire, un poème. Que la poésie ne relève pas seulement de l'expérience de l'écriture, mais elle relève de l'expérience de la parole et, entre autres, de la parole parlée. Et qu'on peut élaborer un poème, improviser un poème en parlant. Je le crois très fort et évidemment, je ne sais pas si c'est ce qui a lieu dans ce livre d'entretien, mais c'est ce qui, s'il y avait un sens, ce livre, c'est ce qui devrait y avoir lieu. C'est-à-dire une production de poésie dans la parole parlée.
Tout à l'heure, dans l'archive, Paul Ojakowski-Laurence décrivait son métier d'éditeur comme étant à la recherche de la vérité. Est-ce qu'il y a dans ce livre, Improvisation et arrangement, un référentiel qui serait celui-là ? Improvisation avec la vérité, arrangement avec la vérité.
Plutôt que arrangement avec la vérité, je préfère un arrangement de la vérité, mais mais il faut encore faut-il s'entendre. Moi, je pense que le travail d'écriture et tout ce qui tourne autour est un travail de vérité, mais pas un travail pour dire un dogme, ni pour établir un système auquel les gens doivent croire. Je n'incarne pas la vérité, ouf, mon Dieu, non, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. C'est on traverse la rue et on décrit la traversée de la rue, et il faut que cette traversée soit vraie. Et c'est l'écriture ou la pratique de la poésie, la pratique très scrupuleuse du réel, dans un travail de production poétique qui doit rendre la vérité du moment. On doit vraiment voir quelqu'un traverser la rue, si c'est ça dont il s'agit. On doit le sentir plus qu'en l'ayant simplement vu. On doit l'éprouver comme vrai. C'est cette vérité-là, en tout instant et à tout niveau, qu'il faut mettre en œuvre. Et c'est à ça qu'un écrivain peut aspirer, en tout cas, certainement à ça que j'aspire. Certainement. En ce sens, il y a, avec le plus grand scrupule et la plus grande humilité, un travail de vérité.
Dans ces entretiens, il arrive souvent que vous ayez peur des arrangements. C'est-à-dire qu'on vous entend à vous lire et à lire vos réponses, l'idée selon laquelle prendre la parole sur un sujet ou parler de soi, de ce qu'on a pu traverser, parler du passé, c'est peut-être s'apprêter à mentir. Ça revient assez souvent.
Oui, il y a toujours ce risque-là, il faudrait vraiment pas. Il faudrait pas, il faut pas mentir. Il faut essayer de coller au réel, c'est le gage de qualité, c'est pas le critère suffisant, mais c'est un des critères indispensables à la qualité d'un travail. Même, et peut-être plus encore, non pas plus encore, il n'y a pas de plus encore, tout autant lors d'un entretien que lors de l'écriture d'un poème. Il y a un ne pas mentir. Il y a un devoir d'avouer, de dire ce qu'on a mal fait. Il y a un devoir de dire ce que l'on croit qu'on a moins mal fait. Il y a un devoir de dire comment on a tenté de le faire. Il y a un devoir de s'y tenir. Et en le faisant, on s'invente. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment on va énoncer la réponse. Et la réponse, on la découvre soi-même en la produisant, en la donnant. Donc on s'invente. Mais certainement, il faut ne pas mentir. Ça, c'est un des très beaux côtés du travail d'écrivain.
Est-ce que vous avez retrouvé pour de bon, et peut-être pour le futur, le goût de faire des livres de Dominique Fourcade ?
Non. Non, non. Ce soir, non. On verra. Non. Non, non, j'ai encore rien retrouvé. Non. Mais on va voir. C'est-à-dire, il faut jamais dire jamais. Il faut être sûr de rien, ni sûr qu'on pourra faire quelque chose, ni sûr qu'on ne pourra pas la faire.
Mais écrire, oui.
J'ai gardé intact le goût de l'écriture. Oui.
Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cet entretien.
C'est moi qui vous remercie de tout cœur.
Deuil est publié aux éditions POL, c'est un texte magnifique. Et Improvisation et Arrangement est aussi publié aux éditions POL. On rappelle que l'édition est établie par Adrien France Lanor et Caroline Andriot-Saillon. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She said, hey, hey, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe,
take a walk on the wild side. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the color girls go do 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 do. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, thank you. Looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. Jackie is just feeding away. Thought she was James Dean for a day. Well, then I guess she had to crash. Valium would have helped that dash. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the color girls go do 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 do. Okay, we can do something really cheesy now if you feel like it. We can all sing along. I know it's lame, but why not? It's gonna make you feel good, I promise. Okay, so 1, 2, 3, go.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec Karim Belkacem. Quand vous voulez, sur le site franceculture.fr à la page de l'émission. Quand vous voulez aussi, en vous abonnant au podcast. Ce soir au son, c'était Jean-Michel Coqui. À la réalisation, Olivier Guérin, Jeanne Aléos, Corinne Amar, Aurienne Delacroix, Romain de Bec de Lièvre pour m'aider à penser et fabriquer cette émission.